Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau, chers auditeurs. Bienvenue pour cette deuxième partie de cette édition de Restons courtois. Cette édition de Restons courtois du jeudi, donc de Valeurs actuelles sur les ondes de Radio Courtoisie. Je suis en plateau avec Valentin Gore, journaliste au service politique de Valeurs actuelles. Nous accueillons à l'instant le député Renaissance des Yvelines, Charles Rodoel. Bonsoir, monsieur le député.
Bonsoir, merci pour votre invitation. Désolé de ne pas être avec vous en plateau cette fois-ci. J'avais eu grand plaisir à venir la dernière fois. Mais nous sommes en plein débat sur la loi d'urgence agricole.
Ah oui, donc, sujet d'importance.
Et merci de m'avoir invité également pour évoquer d'autres sujets tout aussi importants. C'est toujours un plaisir.
Absolument, on va notamment parler de cette fameuse loi philippine. Donc, vous êtes député de la première circonscription des Yvelines, donc qui regroupe une grande partie de la ville de Versailles, mais aussi les communes de Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt pour nos auditeurs. Vous êtes aussi l'auteur de cette loi dite philippine, donc qui désigne une proposition de loi élaborée après le meurtre de Philippine Lenoir de Calan, étudiante assassinée en septembre 2024 par un ressortissant marocain sous OQTF, déjà condamné pour viol et passé par un centre de rétention administrative. L'affaire avait évidemment provoqué un débat national sur l'exécution des expulsions et la gestion des étrangers jugés dangereux. Ah. Vous êtes revenu, on vous avait perdu, vous êtes revenu, c'est formidable. Première question, Charles Rodoel, le fait d'avoir nommé cette loi la loi philippine, c'est évidemment un hommage. Comment vous est venue tout simplement cette idée?
Le meurtre de Philippine Lenoir de Carlan en septembre 2024 a été évidemment un traumatisme pour tous ceux qui la connaissaient et pour des milliers d'habitants de ma circonscription. Et c'est évidemment en lien et en accord plein et entier avec la famille que nous avons décidé de manière collective avec Bruno Retailleau, avec Michel Barnier, avec Gabriel Attal, avec Laurent Wauquiez, de porter ce texte en mémoire de cette jeune fille pour prendre des mesures très fermes pour assurer la sécurité des Français, pour renforcer la sécurité des Français, tout en respectant notre état de droit. C'est vraiment sur cette ligne de crête qui n'est pas toujours facile à trouver, que s'inscrit cet texte, parce que nous sommes convaincus que l'état de droit ne doit pas nous condamner à l'impuissance et que les mesures que nous prenons, qui sont drastiques pour renforcer la sécurité des Français et pour lutter contre l'immigration illégale, ne doit pas occulter la protection fondamentale de nos libertés publiques.
Vous faites bien, monsieur le député, de parler justement de respect de l'état de droit, parce que cette possibilité existait précédemment, mais elle est tombée en août 2025 lorsqu'une précédente loi sur l'allongement de la durée de rétention administrative a été censurée par le Conseil constitutionnel. On précise que dans la loi que vous portez, il y a l'allongement possible de la durée maximale de rétention en centre de rétention de 80, vous voulez apporter de 90 à 210 jours, et que cela avait été censuré par le Conseil constitutionnel à l'époque. Pourquoi et comment vous avez réussi à convaincre cette fois du bien fondé de cet article de loi?
Donc le texte que l'on porte, il a trois volets. Il a un volet qui traite des personnes qui sont atteintes de troubles psychiatriques très graves, qui sont des personnes malades, et qui sont donc des personnes qui sont à la fois dangereuses pour elles-mêmes et pour la société. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est pouvoir intervenir avant qu'elle ne passe à l'acte. Deuxième volet que l'on a, ce sont des mesures de lutte drastique contre le terrorisme, à la fois pour des personnes qui sont déjà détenues, mais aussi pour des personnes qui sont soupçonnées de faits extrêmement graves en lien avec le terrorisme. Et troisième volet, c'est celui que vous évoquez, C'est pour des personnes qui sont sous OQTF, qui sont présentes illégalement sur le territoire français, qui n'ont rien à faire ici et qui sont extrêmement dangereuses parce que ce sont des personnes qui ont déjà été condamnées soit pour des faits de terrorisme, soit pour des faits de délinquance ou de criminalité extrêmement graves. Le Conseil constitutionnel avait censuré l'allongement de la rétention pour des personnes sur un spectre qui était très large. Donc la proposition de loi précédente visait l'allongement de la rétention pour des milliers de personnes. Là, la proposition qu'on a déposée vise à allonger la durée de rétention administrative pour des personnes qui non seulement sont présentes illégalement sur le territoire français, qui n'ont rien à faire ici, mais qui sont en plus coupables de faits extrêmement graves, de terrorisme, d'actes de séquestration, d'actes de torture, d'actes de viol, d'actes de barbarie, et qui donc présentent un danger immédiat extrêmement dangereux pour la société, et qu'il faut donc que nous retenions longtemps avant de les expulser. Nous avons pris en compte les recommandations qui nous avaient été faites par le Conseil d'État. Il n'y a donc pas de raison, a priori, de voir une censure de ce texte qui présente des mesures drastiques pour assurer la sécurité des Français tout en protégeant de leur liberté publique.
Alors le drame, Charles Rodwell, je vais laisser la parole ensuite à Valentin Gore, mais il est vrai, donc cette proposition de loi est à saluer, puisqu'on a envie de, on a envie de dire ces mesures sont de bon sens, mais on a ce que nos auditeurs, je pense, pour une grande partie, pensent cela, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Vous êtes député de la majorité d'Emmanuel Macron depuis 2017. Le débat sur les OQTF jamais exécutés existe depuis des années. Il y a eu l'affaire Lola quelques mois avant celle de Philippines. On est tenté de dire pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que cette initiative vient par exemple de l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue des gouvernements qui se sont succédés depuis 2017? En bref, monsieur Rodwell, vous comprendrez, c'est peut-être pas trop peu, mais on a un peu l'impression que c'est trop tard, que c'est trop tard pour Philippines, c'est trop tard pour tous les précédents, et il est incroyable qu'il ait fallu un tel drame pour que la représentation nationale se réveille, si vous voulez, sur ce sujet-là.
Je suis arrivé à l'Assemblée nationale en 2022, parce que j'ai été élu en 2022. Je me suis, et vous y avez souvent donné écho, et je vous en remercie beaucoup, j'ai tout de suite pris à bras-le-corps le sujet de l'immigration, notamment l'immigration illégale et du lien évident qu'il existe entre l'immigration et l'insécurité dans notre pays. Et je suis convaincu que nous avons réussi et que nous avons gagné bien des combats depuis 2017, 2022. Et que la raison pour laquelle nous avons perdu les législatives en 2022 et perdu les législatives en 2024, c'est que nous avons aussi des échecs à notre actif et que parmi ceux-ci, notre politique migratoire en est un. Je dirais même que c'est l'un de nos grands échecs. Et que si les Français nous ont refusé leur confiance et que s'il y a 3 millions d'électeurs d'Emmanuel Macron en 2017 qui ont voté pour le Rassemblement national en 2024, s'il y a plus de 15 millions de Français qui ne sont pas allés aux urnes en 2024, c'est bien qu'il y a une partie de notre politique que nous avons échoué. C'est la raison pour laquelle moi j'appelle mon camp à faire de la reprise de contrôle de nos flux migratoires et de l'identité nationale, de l'identité française, de la culture française et de l'enjeu migratoire le cœur de notre projet politique. C'est un sujet trop important pour le laisser à ce que j'appelle moi les populismes, à l'extrême gauche et à l'extrême droite qui veulent entretenir un clivage identitaire dans notre pays. Ce n'est pas la vision que j'ai de la société française. Et je suis donc convaincu que soit nous nous emparons de ce sujet pour en faire le cœur de notre projet politique, soit nous serons rayés de la carte et ce sera peut-être mérité. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays et c'est la raison pour laquelle je m'empare de cet enjeu. Parfois de manière assez difficile, je me fais souvent critiquer, et vous aussi et de nombreuses personnes, mais on voit bien qu'avec l'adoption de la loi philippine à l'Assemblée nationale, au Sénat et j'espère ensuite de manière finale avant l'été, que les forces républicaines de ce pays sont parfaitement capables de voter des lois pour reprendre le contrôle de notre politique migratoire et de trouver un juste équilibre entre la protection des libertés publiques et le renforcement drastique de la sécurité des Français.
On sait que ce sujet est clivant jusqu'au sein de votre propre groupe. Alors vous l'avez rappelé, j'ai fait une erreur effectivement en vous présentant, vous n'êtes élu que depuis 2022 et pas dès 2017. C'est ça qui était intéressant. Je laisserai la parole à Valentin Gore juste après, mais c'est ça qui était intéressant. J'ai trouvé dans la première majorité absolue d'Emmanuel Macron entre 2007 et 2022, c'est que on voyait un petit peu justement se dessiner ce qu'elle est dessinée en 2022 puis en 2024. Finalement, une aile droite, une aile gauche, et qui sur des sujets liés à l'immigration l'immigration. On se rappelle, les auditeurs s'en rappellent peut-être, mais les débats autour de la loi Collomb en 2017 qui avait commencé à déchirer votre famille politique, l'immigration a été un des grands impensés, pour ne pas dire un angle mort dans la politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017. Je vous laisse réagir à ça très rapidement et je donne la parole à Valentin Gore.
Moi, ma position, elle est claire, c'est que je pense que la France ne peut plus souffrir d'un en même temps en matière de sécurité et d'immigration. Et moi, je suis fier d'appartenir à un camp qui a porté une politique résolument pro-européenne, qui a porté une politique de l'offre en matière économique, qui a su protéger notre économie et protéger les Français face à la crise Covid. Je sais que cet avis n'est pas partagé par tous, mais moi, j'en suis très fier. Mais je crois aussi qu'il faut que nous ayons la lucidité de reconnaître nos échecs et que la politique migratoire est l'un de nos échecs, qu'il n'est pas trop tard pour redresser la barre, mais que cette question doit s'inscrire au cœur de notre projet politique, non pas seulement à partir de 2027, mais dès maintenant. Et je suis heureux de voir que la droite et le centre sont parfaitement capables de porter des combats communs comme celui-ci. Il serait donc lunaire que nous partions divisés à l'élection présidentielle, parce que ce texte illustre à quel point nous partageons les mêmes idées, les mêmes électeurs, le même projet politique. Il faut donc que nous soyons alliés pour affronter les combats politiques futurs.
Valentin Gore pour Charles Rodwell.
Monsieur le député, je reviens un peu à votre proposition de loi, mais la question est aussi plus large. Vous avez réussi donc à contourner ce qui peut apparaître comme un obstacle à certains moments, c'est-à-dire l'état de droit ou certains excès parfois que peuvent avoir les conséquences de l'état de droit. Il y a aussi évidemment un problème de volume. Les places en prison qui sont insuffisantes, et puis aussi vous parliez de la psychiatrie. Alors là, la situation est aussi particulièrement sinistre. Comment pensez-vous réussir à créer rapidement de nombreuses places de prison et rapidement aussi de nombreuses places en psychiatrie qui seront nécessaires pour que votre loi soit correctement appliquée ?
Alors, ce texte ne prétend pas répondre à, évidemment, tous les enjeux de la sécurité des Français. Je serais bien arrogant de vous le dire. En revanche, les 9 articles que nous présentons présentent des solutions extrêmement concrètes pour que certains actes qui ont été commis ces dernières années ne se reproduisent plus sur le territoire français. L'injonction des examens psychiatriques, elle répond à un enjeu. L'attentat de Bir Hakeim en 2022 a été commis par quelqu'un qui n'avait pas fait l'objet d'un examen psychiatrique avant son passage à l'acte. Il n'a pu faire l'objet d'un examen qu'après son passage à l'acte. Complètement lunaire. On répond à cette question. La question de l'allongement de la durée de rétention administrative pour les personnes sous OQTF. Typiquement le cas du triste assassinat de Philippine, de celui de Lola, de l'attaque au couteau à Mulhouse en février 2025. Voilà des cas qui, peut-être, auraient pu être évités si on avait pu avoir l'allongement de la durée de rétention. Ce sont les articles 7 et 8 de cette proposition de loi. Mais le sujet que vous soulignez, celle des moyens, elle est fondamentale. Je ne prendrai qu'un enjeu parmi d'autres, la rétention administrative. Je suis rapporteur du budget de l'immigration à l'Assemblée nationale. Vous n'imaginez pas à quel point le débat est homérique chaque année pour tenir les crédits d'investissement en rétention chaque année, c'est un combat que l'on mène jour et nuit pour continuer la construction de places en rétention, pour qu'on ait plus de places, pour qu'on puisse détenir plus de personnes en rétention avant de les expulser. Dernier point pour répondre à votre question, l'enjeu fondamental de la question de l'immigration illégale, c'est pas d'expulser plus, évidemment qu'il faut expulser plus, mais c'est surtout de faire rentrer moins de personnes en situation irrégulière sur le territoire français, parce que la question de l'immigration
voire
illégale...
Voire aucune, monsieur le député. Le but, c'est qu'il n'y ait aucune personne qui ne rentre en France en situation irrégulière. L'objectif,
absolument.
C'est ça.
De toute façon, nous ne dire qu'on veut reprendre le contrôle de notre politique migratoire, c'est déjà assumer le fait qu'il n'y ait plus d'immigration illégale qui rentre dans notre pays. Mais c'est là où j'ai un point de désaccord fondamental avec le Rassemblement national, c'est comment est-ce qu'on arrive à ce point-là ? Je vous prends un exemple parmi d'autres pour ne pas être trop long. Moi, je suis convaincu que la coopération européenne est fondamentale pour réduire l'immigration illégale. Un exemple. En 2023, vous avez 100 000 immigrés illégaux qui ont traversé de Tunisie à l'Europe via la Méditerranée. En 2024, il n'était plus que 16 000. Donc, on a une baisse de l'immigration illégale de Tunisie vers l'Europe de 84% en un an entre 2023 et 2024. Pourquoi ? Parce que les États européens et l'Union européenne ont signé un accord de coopération migratoire avec la Tunisie pour réduire massivement l'immigration illégale venant de ce pays. Je suis convaincu que nous ne pourrons pas réduire l'immigration illégale sans coopération à l'échelle européenne, même si c'est difficile. C'est l'un des points de désaccord majeurs que j'ai avec le RN, même si je respecte évidemment tous les avis.
Alors, l'autre question, vous l'avez un petit peu évoquée. D'ailleurs, lorsque vous aviez parlé du vote de votre loi, vous avez justement souligné à quel point la droite et le centre pouvaient se mettre d'accord. On a presque l'impression d'entendre un partisan d'Édouard Philippe, Charles Ordwell, lorsqu'on entend ce genre de propos. D'ailleurs, c'est un petit peu toute la question du bloc central, puisque Emmanuel Macron va quitter le pouvoir dans un peu moins d'un an, pour laisser la place à une alternance, soit un potentiel successeur. Et si on fait l'appel, Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Édouard Philippe, Gérald Darmanin, Aurore Berger, qui s'est aussi déclaré son intérêt, on peut aussi rajouter Xavier Bertrand et bien d'autres. Il y a quelques mois, vous appartenez tous plus ou moins au même camp politique, en tout cas au même socle commun. Celui-ci croule désormais sous les candidatures, du moins des personnalités qui y réfléchissent, se positionnent, laissent entendre que peut-être il pourrait. Comment vous voyez cet après? Est-ce que vous voyez toute votre famille politique au sens élargi, mais ça pourrait aller de l'aile gauche de votre groupe jusqu'on va dire le centre droit? Est-ce que vous pensez que tout ce socle pourrait avoir un seul et même candidat, Charles Ordwell? Parce que c'est vrai, quand vous écoute parler, on a du mal, par exemple, à vous trouver des points communs politiques avec, pour prendre une personnalité au hasard, Madame Pannier-Runacher, par exemple, qui siège avec vous.
Je pense que tous les gens que vous avez cités sont liés par un destin commun. Soit la droite et le centre sont rassemblés pour mener les combats qui viennent. Je travaille sur ma proposition de loi avec Gabriel Attal, avec Bruno Retailleau, avec Michel Barnier, avec Gérard Larcher, avec Laurent Wauquiez, avec Gérald Darmanin, avec Sébastien Lecornu. Je travaille avec tous ces gens-là. Et si ma proposition de loi est adoptée, ce ne sera pas une victoire individuelle, ce sera une victoire collective. Et donc, à partir du moment où tous ces gens-là travaillent ensemble, il serait donc lunaire qu'ils présentent 2, 3, 10 candidatures à l'élection présidentielle. S'ils sont unis, nous avons une chance de gagner. Si nous sommes désunis, nous serons balayés au profit d'un clivage identitaire entre la France insoumise et le Rassemblement national. Ce n'est pas ce que je souhaite pour mon pays, et je pense que nos électeurs ne nous le pardonneront jamais. J'ai toujours été un ardent défenseur de la primaire, j'ai toujours voulu qu'il y a une primaire fondée sur trois piliers, une primaire libérale, où on baisse les dépenses pour baisser les impôts, une primaire pro-européenne et une primaire où tous les candidats assument de vouloir réduire massivement l'immigration. Cette primaire n'aura pas lieu, il est trop tard, je le regrette amèrement, mais ce que je dis à tous les candidats qui sont sur la ligne de départ, c'est que s'ils ne se rassemblent pas, ils porteront une responsabilité historique dans la disparition des forces républicaines et modérées de l'échiquier politique et dans l'affrontement identitaire que nous promet l'extrême gauche et l'extrême droite dans un conflit qui, à mon avis, serait délétère pour notre pays. C'est la raison pour laquelle la responsabilité de ces gens-là est extrêmement lourde et que nous sommes nombreux à appeler pour l'union de nos forces qui, à mon avis, est évidente et vitale pour notre pays.
Ce qui veut dire que d'une personnalité comme Gabriel Attal, qui a récemment fait comprendre qu'elle était personnellement au moins ouverte à l'ouverture d'un débat sur la GPA, et Bruno Retailleau, vous pensez que ces gens-là pourraient s'entendre, alors même que des sujets comme la GPA sont quand même des sujets extrêmement clivants, sont des sujets même plutôt réservés à la gauche, voire à la gauche de la gauche, et voir un candidat potentiellement de la droite et du centre s'emparer de ce sujet-là et le porter, on voit mal comment une telle dynamique pourrait se créer, Charles Ordwell, pour prendre cet exemple précis.
Sur les enjeux dits, je n'aime pas ce terme, mais qui le résume plutôt bien, les enjeux dits sociétaux, il y a toujours eu une liberté totale dans les différents groupes que vous avez cités, liée à la conscience de chacun. Bon, par exemple, un sujet qui n'a évidemment rien à voir, même si on en choisit dans cette
Non,
case,
vous n'étiez, pardon,
la
excusez-moi de
question
vous
des
couper, monsieur le député, je
vectivateurs.
suis désolé de vous couper. Alors,
Oui.
vous n'étiez pas encore élu, effectivement, mais moi, je me rappelle le sort qu'avait réservé le groupe de La République En Marche entre 2017 et 2022 à la députée Agnès Thil, qui avait eu le malheur de déclarer son opposition personnelle à la légalisation de la PMA et qui a été insulté, exclu du groupe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que généralement, dans le macronisme, toutes les opinions sont valables, surtout si on est progressiste, objectivement.
Je vous prends un exemple. J'ai été opposé à l'aide active à mourir. Je n'ai pas subi l'esclandre que vous décrivez. Et je
C'est
pense
que
que la
vous avez bien
liberté de
évolué,
presse va à
bravo.
chaque fois. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand vous prenez toutes ces forces politiques-là, vous soulignez leurs divergences, mais ce que je constate, c'est qu'elles gouvernent ensemble. Vous avez Bruno Retailleau qui a été ministre de François Bayrou. Vous avez Laurent Wauquiez qui travaille avec Gabriel Attal. Vous avez Michel Barnier qui a été à la tête d'un gouvernement avec les forces centristes et de droite au sein d'entre elles. Et ce que je vois sur ma proposition de loi, pardon, je reviens à un sujet micro, mais c'est que tout ce monde travaille ensemble. Et tant mieux. Je trouve que c'est extrêmement rassurant pour notre pays de voir que ces gens que je cite, mais tous les députés qui sont là, sont parfaitement capables de travailler
Mais
ensemble.
vous êtes
Et donc,
minoritaire.
pourquoi affrontons-nous? Pardon?
Mais vous êtes minoritaire au sein de l'Assemblée nationale. C'est qu'à un moment donné, votre loi, par exemple, si elle n'avait pas bénéficié du soutien, par exemple, du Rassemblement national,
Mais qui est
elle n'aurait
majoritaire
aucune
aujourd'hui à
chance de.
l'Assemblée nationale?
Mais personne, c'est bien ça.
Jean-Marc
Mais non,
Fesneau,
mais c'est
je
bien
suis
ça le
certain,
problème,
par
cher
exemple,
monsieur Renouel.
que peut-être vous ou d'autres aimeriez que le Rassemblement national soit majoritaire, mais
Moi, je ne
aujourd'hui, on ne le
souhaite
sait
rien,
pas
vous
davantage.
savez, j'observe.
Et ce que je constate simplement, c'est que personne n'a la majorité à l'Assemblée. Alors pourquoi est-ce que personne ne l'a? Moi, à titre personnel, j'ai refusé le Front républicain sur ma circonscription parce qu'un Front républicain avec la France insoumise n'est pas un Front républicain. C'est une hérésie politique. C'est la raison pour laquelle je l'ai refusé sur ma circonscription. Et aujourd'hui, personne n'a la majorité à l'Assemblée nationale. Et ce que je constate, c'est qu'il y a des gens qui viennent d'horizons politiques très différents, qui ont su se rassembler pour bâtir un texte qui, j'espère, sera une victoire politique collective, non pas pour nous, mais pour notre pays et pour assurer la sécurité des Français. Et si nous arrivons à le faire sur des textes très concrets comme celui-ci, il n'y a aucune raison, malgré nos diversités, il faut assumer, on a des courants, on a des idées politiques parfois différentes, des nuances, mais je suis convaincu que ce qui nous rassemble est beaucoup plus puissant que ce qui nous divise, notamment vis-à-vis des adversaires politiques que nous avons dans cette élection.
Vous êtes bien à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut. Je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles et nous sommes avec Charles Rodouel, député Renaissance de la première circonscription des Yvelines. Valentin Gore, vous avez une question pour le député.
Oui, bien sûr, parce que je suis très intéressé par ce que vous disiez sur ce projet de primaire que vous aviez, hein, donc primaire libérale, primaire pro-européenne, primaire visant à réduire l'immigration, avec donc les partisans du socle commun qui gouvernent encore d'une certaine façon aujourd'hui, parce que dans le gouvernement Le Cornu, vous avez encore cette variété d'acteurs, même si les ministres LR sont officiellement suspendus. Mais enfin, c'est une suspension un peu fictive. Est-ce que ce n'est pas quand même très difficile de proposer de faire pour les 5 ans qui viennent, au moins pour les deux items sur la politique libérale et la réduction de l'immigration, ce que vous n'avez pas réussi à faire pendant les 10 ans qui viennent de s'écouler? Parce qu'il fait, vous proposez finalement la rupture avec la politique que vous avez, en tout cas que les gouvernements que vous avez pour certains soutenus, ont appliquée ou n'ont pas réussi à mettre en œuvre.
Parce que vous estimez que, une politique libérale, c'est pas, la baisse de l'impôt sur les sociétés de 8 points qu'on a mené de 33 à 25%, qui est la baisse de la fiscalité sur les entreprises la plus large depuis le début de la Ve République. Parce que la baisse des impôts de production de 15 milliards d'euros qu'on a menée avant et après crise Covid, c'est pas cette politique-là.
Le quoi qu'il
Parce
en
que la baisse
coûte,
de
la
l'impôt
taxe
sur
sur
le
le
revenu, parce que
carburant,
la
de
baisse aussi de
2017 à
l'impôt
2020, vous avez peut-être
sur
raison, effectivement, dans la première partie, oui.
Je vous laisse m'interrompre, mais parce que peut-être que c'est bien de rappeler ces faits-là. Moi, je considère qu'une politique libérale, c'est une politique de l'offre, on soutient les entreprises, c'est ce qu'on a fait depuis 2017. Je considère qu'une politique libérale, c'est une politique où on mène une réforme du marché du travail, c'est la plus large réforme du marché du travail qu'on a menée depuis 40 ans. C'est la réforme des retraites pour que plus de Français puissent avoir la possibilité de travailler un peu plus longtemps. Ce sont des réformes qu'on a menées pour baisser massivement la fiscalité, tant sur les ménages que sur les entreprises. Donc, moi, ça fait partie du bilan dont je suis très fier. Il y a une partie de ces décisions qui sont très difficiles. Demander, par exemple, à des Français de travailler un peu plus longtemps, c'est pas facile. Ça demande des débats extrêmement lourds et difficiles, mais je suis convaincu que c'est la seule politique qui peut nous permettre à la fois de relancer l'industrie et l'activité dans notre pays, tout en sauvant notre modèle social de la ruine. Et donc, je suis convaincu que les réformes économiques que nous avons menées depuis près de 10 ans sont des réformes qui ont parfois été impopulaires, mais qui nous seront reconnues comme un succès lié à la politique économique et fiscale qu'on a menée sur ces dernières décennies pour amorcer la relance de la réindustrialisation dans notre pays. On n'a pas tout réussi, mais s'il y a bien une chose qu'on a réussi, je crois que c'est notre politique fiscale et notre politique économique.
Vous aviez été l'auteur d'un rapport d'ailleurs sur la réindustrialisation de la France, Charles Rodouel. En tout cas, vous avez été à la tête, vous aviez composé une commission d'enquête aux côtés du Rassemblement national, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les conclusions n'ont pas été les mêmes de part et d'autre.
Ah ben ça, je vous le confirme. C'est-à-dire que le Rassemblement national a fait 250 propositions, me semble-t-il. D'ailleurs, le rapporteur Alexandre Loubet avait fait un travail long, mais qui a révélé les, je dirais, le caractère irréconciliable de nos propositions. Il n'y a pas une proposition que le Rassemblement national a fait qui ne lutte pas contre tous les efforts qu'on a faits pour lutter contre le changement climatique. Et quand je constate, par exemple, que le Rassemblement national, depuis ne serait-ce qu'un an et demi, a voté main dans la main avec la gauche la nationalisation d'ArcelorMittal, a voté main dans la main avec la gauche 34 milliards d'euros d'impôts supplémentaires qui pèseront sur les entreprises, heureusement qu'on a fini par les rejeter, qui a laissé passer la taxe Zucman en commission des finances, qui voit 3, 4, 6, 10 lignes s'affronter en interne pour essayer de tenter de définir un programme économique pour dans moins d'un an, je ne vous cache pas ma grande inquiétude de voir ce parti arriver au pouvoir si nous ne bâtissons pas une alternative crédible.
J'entends.
Et la raison pour laquelle je veux faire des questions migratoires et régaliennes le cœur de notre projet politique, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui sont en colère de notre bilan en cette matière, et je les comprends. Et que nous n'avons pas d'autre choix que de nous emparer de ces sujets pour éviter que l'extrême gauche ou que l'extrême droite n'arrivent au pouvoir, parce que je suis convaincu, parmi d'autres angoisses que j'ai, que l'un comme l'autre, leur arrivée au pouvoir signifierait la ruine économique et financière de notre pays. Et ça, je ne peux pas m'y résoudre. Et c'est la raison pour laquelle je mène ces combats et que je mène ces combats avec d'autres. Et j'espère que nous y arriverons. En tout cas, que vous partagiez mon point de vue ou non, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Et avec
C'est
notre
pas une question
éditeur.
de partager votre point de vue ou non, Charles Ordouël, parce que si vous citez des chiffres pour vanter le bon bilan économique, moi je pourrais vous citer les 23 fermetures nettes d'usines pour l'année 2025, l'indice de production industrielle qui cette année est à moins 0,6%, le refus, alors malgré une poignée de députés de votre groupe, le refus par exemple de toucher aux retraites, de toucher au poids que représentent les retraites dans le système social. Je rappelle qu'il fallait avant quatre actifs pour quatre, il y avait quatre actifs pour financer un retraité. Je rappelle que maintenant ils ne sont plus que 1,7, que les prestations sociales visant les retraites ont augmenté de 25 milliards en 2024. Et d'après l'aveu même d'Amélie de Montchalin, 75% de ces 25 milliards ont été épargnés par les retraités. C'est un petit peu ça le problème, en fait, Charles Rodwell, c'est que on a
Alors,
quand non mais quand on vous entend. Quand on vous entend, on a effectivement déjà une forme d'autocritique sur ce qui a été un échec, ce qui a pu être réussi, etc. Mais pour le
mais
reste,
attendez.
on a presque l'impression qu'en fait, vous n'apparteniez pas à cette majorité.
Alors, je suis très étonné de ce que vous dites, parce que je rappelle que je suis député Ensemble pour la République et pas LR ou RN.
Bien sûr,
C'est-à-dire que
justement, c'est pour ça que je vous dis ça. Pour ça que je vous dis que je suis
vous soulignez
étonné.
le problème de la réforme des retraites, mais qui a saccagé la réforme des retraites de 2023, Marc Hainaut? Ce sont
C'est
bien
la
les
gauche,
RN,
surtout.
les LR et la gauche. Qui a refusé de voter cette réforme des retraites? Par exemple, quand vous entendez M. Ciotti dénoncer la gabegie financière de ces dernières années, mais dont le groupe a catégoriquement refusé de nous soutenir sur la réforme des retraites en 2023. J'espère que vous le rappelez, ce fait,
Ah,
ce
bien
genre, parce
sûr.
que
Non, non,
je
mais
n'ai pas
attendez,
entendu.
attendez, Charles Rodwell, sur le
Je n'ai
point
pas
de vue des
fini.
retraites.
Je n'ai pas fini
Terminez,
sur
je vous en
quoi.
prie, terminez, je vous en prie.
J'imagine qu'il vous dérange un peu,
Pas
mais
du tout,
je vais
rien ne me
insister
dérange, Charles
parce
Rodwell.
qu'il fait mal à une partie de nos adversaires politiques qui, je crois, croulent sous l'hypocrisie. Quand vous avez le Rassemblement national qui dénonce les déficits, mais qui vous explique qu'ils vont revenir à une retraite à 62 ans, voire à 60 ans, pour une immense partie des Français, là où tous nos voisins sont déjà à 67 ans. Lorsque vous avez l'UDR qui nous explique qu'ils vont mener une politique ultralibérale, mais qui refuse de soutenir la retraite par capitalisation, alors que c'est le seul moyen de sauver la retraite des Français. Lorsque vous avez une partie de cet hémicycle qui s'est alliée jour et nuit à la gauche pour voter 34 milliards d'euros d'impôts supplémentaires sur la tête des Français de nos entreprises. Comment est-ce que ces gens-là peuvent se regarder dans une glace et dénoncer notre bilan? Moi, je vais être très franc avec vous. Sur cette question, je dors très tranquille. Je n'ai jamais voté une hausse d'impôts dans cet hémicycle. Je n'ai jamais voté une hausse de dépenses sur notre système social. C'est le combat qu'on mène avec nos collègues, par exemple Guillaume Kasbarian et d'autres, pour baisser massivement la dépense et pour baisser massivement les impôts. Maintenant, si je peux me permettre, j'ai une question en retour pour vous. J'ai déposé, lors du dernier budget, des amendements. Et lorsque j'ai additionné les économies de ces amendements, j'arrivais à 23 milliards d'euros d'économies que j'ai proposées avec mes collègues au Parlement. Est-ce que vous savez combien de ces amendements ont été adoptés?
Très peu, je suppose.
Zéro. Zéro. Ils ont été soutenus par mon camp, ils ont été soutenus par une partie des LR, et vous aviez systématiquement l'alliance de la gauche et du Rassemblement national pour refuser toute économie.
Oui, mais c'est ça
Donc je
qui
n'ai
est...
aucune leçon à recevoir de la part de ceux qui ont torpillé la réforme des retraites, de la part de ceux qui font exploser les impôts sur nos entreprises,
Très
et
bien.
de la part de ceux
C'est...
qui refusent catégoriquement de voter chaque euro d'économie. Et je crois que ce sera l'un des grands enjeux de l'élection présidentielle qui vient.
Alors, sur le point des retraites, je suis entièrement d'accord avec vous, mais voyez, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est qu'effectivement vos amendements n'ont pas pu être votés parce qu'il a fallu attendre que vous soyez des membres minoritaires d'un socle commun lui-même minoritaire pour finalement avoir ce courage-là de s'attaquer au tabou des retraites. On a vu entre 2007 et 2022, vous aviez une majorité plus qu'absolue, entre 2022 et 2024, une majorité relative. Et j'en fais pas tout le reproche qu'à votre force politique, bien au contraire, mais il se trouve que c'est vous qui étiez au pouvoir pendant des années. Ouais. On sait bien que dans la classe politique française, tout parti confondu, je vous en fais la concession, il y a un tabou par exemple sur le vote des retraités. On sait qu'en 2017 Emmanuel Macron était le candidat des actifs, que les actifs l'ont fui au fur et à mesure, qu'à partir de 2022, c'est à partir des élections européennes même de 2019, c'est le poids du vote des retraités qui a globalement porté votre camp politique. Et il y a eu à partir de ce jour-là le fait que les retraites étaient devenues un sujet complètement tabou et qu'il ne fallait surtout pas y toucher. C'est tout à votre honneur d'avoir eu ce courage-là très tardif, mais c'est un fait.
Vous posez un débat très intéressant, mais donc revenons à certains faits qui ne sont pas une opinion, mais une réalité. Comment est-ce que nous avons réussi en 2017, en 2018 en 2019, jusqu'à la crise Covid, 3 années de suite, à baisser le déficit, à baisser la dette et à baisser les impôts en même temps? Comment est-ce qu'on a réussi à sortir la France de la procédure pour déficit excessif? Comment a-t-on réussi à baisser le déficit à 2,4%, à savoir largement en dessous des 3%?
La hausse de la CSG, notamment.
D'autant plus tranquillement que je n'étais pas député à l'époque. Le seul moyen qu'on a réussi à le faire, c'est de baisser la dépense publique. Et depuis 40 ans, la seule majorité qui l'a fait, tout parti confondu, j'ai soutenu Nicolas Sarkozy, j'ai été engagé pendant LR pendant très longtemps et autres, la seule majorité qui a réussi à baisser les impôts, baisser les déficits, baisser la dette en même temps, c'est la majorité d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020. Après, il y a eu l'explosion des dépenses qu'on a souvent décrite. Nous avons un sujet structurel de financement du modèle social sur lequel je peux revenir avec grand plaisir, notamment via la retraite par capitalisation qui nous est refusée par 100% des camps politiques, excepté le nôtre, mais on ne peut
une
pas
partie dire du vôtre.
Que cette majorité n'a pas baissé les impôts, les déficits et la dette, parce que ça a été le cas entre 2017 et 2020, et vous avez été nombreux à nous le reprocher, et pourtant ça a été fait. C'est la raison pour laquelle moi je suis très attaché à cette politique, et si nous voulons pouvoir appliquer cette politique dans le prochain mandat, nous avons à redresser la barre sur notre grand échec, qui est notre politique migratoire et une partie de notre politique régalienne. Et c'est aussi la raison pour laquelle, avec passion, je m'empare de ces sujets.
Dernière question, Charles Rodouel, merci d'avoir été avec nous. Mais dernière question, simplement, en un mot, si vous deviez choisir demain entre Gabriel Attal et Édouard Philippe, qui soutiendrez-vous lors de l'élection présidentielle à venir?
De Gabriel Attal à Bruno Retailleau, je choisirai le seul candidat qui sera rassemblé et qui pourra faire gagner notre camp. Que ce soit Attal, Philippe, Retailleau, quel que soit le candidat, nous n'avons pas d'autre choix que de nous rassembler parce que sans ce rassemblement, nous serons rayés de la carte et nos électeurs ne nous le pardonneront jamais.
Le mieux placé. Donc, merci Charles Rodouel, député Renaissance des Yvelines, pour avoir été avec nous à l'antenne
merci
de Radio
à vous
Courtoisie.
Aussi.
Restez avec nous, chers auditeurs. Tout d'abord, un petit message de votre radio et nous reviendrons ensuite avec Nicolas Boutin.
Vous avez fait le choix de nous rester fidèles. Vous avez fait le choix d'écouter Radio Courtoisie. Vous avez fait le choix de nous soutenir parce que vous êtes libre. Parce que pour vous, tout comme Radio Courtoisie, la liberté de penser, la liberté de parler, la liberté de chercher sont primordiales pour vous. Radio Courtoisie vous offre désormais le choix d'écouter nos podcasts partout et tout le temps sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Gratuitement, pour que toujours cette liberté qui nous unit, qui nous est chère, demeure.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et bonsoir à nouveau chers auditeurs, bienvenue pour cette ultime partie de l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut, je suis en plateau avec Valentin Gore du service politique de Valeurs Actuelles. Vous venez d'écouter le député renaissant Charles Rodouel, député de la première circonscription des Yvelines, qui a fait quand même une petite autocritique sur la, sur la politique menée par sa famille politique, notamment sur l'immigration. En tout cas, on vous laisse réagir, chers auditeurs, à cette intervention. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. On va quitter Paris, l'Assemblée nationale et l'élection présidentielle pour rejoindre notre cher Nicolas Boutin. Bonsoir Nicolas, est-ce que vous nous entendez bien ?
Bonsoir, oui, très bien, vous-même ?
Bah écoutez très bien, nous étions dans le marigot politique, Nicolas Boutin, et vous sortez d'une conférence de presse d'un procureur qui a été éclairante, je suppose.
Oui, alors, je sais que vous n'allez jamais me croire, Marc, mais effectivement, je suis à Nîmes aujourd'hui, et ce n'est vraiment qu'une coïncidence que c'est le premier jour de l'ouverture de la feria.
Mais non, on était bien sûr, rien à voir.
Même si, le visage affiché par la procureure de la République et surtout par le colonel Cassot de la gendarmerie de Nîmes a été tout aussi souriant et radieux, parce qu'il se trouve que cette semaine, ils ont fait une saisie record dans un bar tabac, figurez-vous, qu'ils ont trouvé 1 083 720 € en liquide.
Ah oui, énorme somme dans un bar tabac. Ça en fait des paquets de Marlboro. Ah oui, pardon, des paquets de Marlboro, Philip Morris, Lucky Strike et Camel. Enfin voilà, j'ai fait.
Et le prix augmente, c'est peut-être pour ça.
Le prix augmente. Alors, pour tout vous dire, en fait, c'est un bar tabac qui est très connu du centre-ville de Nîmes, qui se trouve juste à côté de la Maison Carrée. Donc, pour tous ceux qui sont déjà venus au moins dans une visite touristique, peut-être que vous êtes déjà rentré faire jouer votre loto, peut-être acheter un paquet de cigarettes, même si Centre Public France nous le déconseille vivement. Mais vous êtes peut-être rendu dans ce lieu. Et alors, tout part, en fait, il y a 6 mois, d'une autre enquête sur le trafic de stupéfiants dans la région nîmoise. Et puis, au fur et à mesure des écoutes, une fois cette enquête bouclée, au fur et à mesure des écoutes, ils ont tiré un fil, un peu par intuition, hein, c'est ce qu'on appelle ces procédures par intuition de la part des gendarmes, et au fil d'écoute, ils se sont rendus compte qu'il y avait un détenu actuellement en prison, qui a déjà écopé de 4 ans pour trafic de stupéfiants, et qui continuait à contrôler un trafic, notamment de livraison à domicile. Vous savez, c'est un petit peu les nouvelles tendances après les points de deal classiques en bas des tours ou dans les centres-villes. Maintenant, l'heure est à la livraison à domicile. Et donc, au fur et à mesure, ils ont isolé 6 personnes, dont le gérant de ce bar tabac et sa compagne. Et pour lequel, lors de la perquisition, ils ont eu la surprise, parce que c'est véritablement une saisie à la fois record et historique,
bah, on imagine,
de plus d'1 million d'euros en numéraire.
Pour l'instant, l'enquête va essayer de faire la lumière sur l'origine exacte de cet argent et d'où il vient.
Exactement, sur l'origine exacte de l'argent, sur pourquoi il était stocké aussi massivement à l'instant T. Dans le bar tabac. Alors, pour l'instant, en garde à vue, le gérant indique qu'il s'agit d'économies de plusieurs années accumulées.
Sens de l'économie de bout de chandelle, dis donc. Félicitations à ce monsieur.
A priori, ils n'ont pas été cru, parce que pour l'instant, ils sont mis en examen pour blanchiment. Et donc ils devront s'expliquer sur la provenance de ces fonds. Alors, blanchiment, est-ce que c'est en lien avec le trafic de stupéfiants? Peut-être, puisqu'on a aussi retrouvé 4 kilos de cannabis dans le commerce. D'autres pistes sont encore envisagées, que ce soit de l'argent, on va dire, récolté légalement, mais pas forcément déclaré. Et puis il reste à savoir si, oui ou non, l'argent leur appartenait ou appartenait à l'éventuel réseau pour lequel ils étaient en contact au vu des écoutes.
Autre actualité locale, Nicolas Boutin, un incendie au Auvernais, le village où vivent les grands-parents du petit Émile Soleil. La maison des grands-parents a été le théâtre d'une tentative d'incendie criminel. Vous avez eu des éléments là-dessus?
Oui, j'ai des éléments, et puis j'ai même envie de vous dire que j'ai un coup de gueule un peu à passer, parce que il est vrai que maintenant ça va faire 3 ans que le petit Émile, vous savez, 2 ans et demi a disparu dans ce petit hameau, et depuis 3 ans on entend un peu tout et n'importe quoi, que ça ressemble à l'affaire Grégory, alors que les enquêteurs nous disent évidemment que il n'y a aucune ressemblance possible, parce que le petit Grégory avait été retrouvé tout de suite, on savait tout de suite que c'était un meurtre, ce n'était pas le cas de Émile, puisqu'on a retrouvé une partie de son corps que 9 mois plus tard, et puis surtout on a très vite mis les soupçons sur cette famille, parce que cette famille était très soudée, parce qu'elle était catholique, qui allait à la messe en latin, parce que ils avaient des idées politiques plutôt à droite, et donc tout ça a fait monter une sorte de suspicion qui, au fil de l'enquête, figurez-vous que les suspicions s'éloignent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont mis hors de cause pour l'instant, ce n'est pas officiel, le parquet devra s'exprimer à ce sujet-là, mais en tout cas, tous les prélèvements qui ont été faits, tous les objets qui ont été saisis pour analyse ont été rendus à la famille, donc s'ils ont été rendus, c'est que ce ne sont pas des pièces à conviction à garder pour dans le dossier. Donc, au fur et à mesure, on se rend compte que cette piste-là mène à l'impasse.
Je vous coupe un instant, Nicolas Boutin. C'est que vous, votre conviction personnelle et totale, c'est que la famille n'a rien à voir avec n'a définitivement rien à voir avec la disparition de ce petit garçon.
Non, ma conviction personnelle est totale.
Et la disparition et la mort, d'ailleurs, de ce petit garçon.
Qu'il faut rester prudent et surtout pas désigner à la vindicte populaire des personnes qui, parce qu'ils auraient un profil différent de ce que l'on connaît dans notre société aujourd'hui. C'est surtout cet appel à la prudence que je veux lancer pour tout le monde, parce qu'on voit sur les réseaux sociaux tout le monde aller vers sa petite théorie dès lors qu'une voiture de gendarmerie sort de la caserne de Marseille. Donc
c'est ça qui est terrible, Nicolas Boutin, avec ce genre d'affaires, c'est que vous savez très bien que on a vu ça avec l'affaire du pont de Ligonnès, et que maintenant avec cette affaire
du petit Grégory,
c'est que malheureusement cela touche énormément les gens, donc évidemment chacun y va de son commentaire, de sa théorie, de ses convictions, et c'est abominable pour la famille, mais malheureusement tout cela est très humain, c'est un peu comme ralentir devant un accident sur l'autoroute, quoi.
Et désormais place aux enquêteurs de faire véritable...
Nicolas Boutin.
Pardon, on a été coupé. Je disais, pardon, place aux
sortez de la feria, sortez de la feria, Nicolas. revenez.
Place aux enquêteurs désormais de vraiment faire la lumière sur ce qui s'est passé et de ne pas être obtus sur une piste qui pour l'instant ne mène à rien. Et c'est d'ailleurs pour ça que les avocats des grands-parents de Émile ont demandé des compléments dans l'instruction avec des pistes qui n'ont toujours pas été explorer, c'est-à-dire que on a retrouvé des éléments qui peuvent emmener les enquêteurs vers d'autres pistes tout à fait extérieures à la famille, aux grands-parents notamment, et au grand-père en particulier, parce que c'était lui qui a été la cible de toutes les théories pour le moment d'enquêteurs amateurs, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi 116 prélèvements ADN nouveaux qui viennent d'être faits, dont on aura réponse après l'été, et c'est absolument là-dessus qu'il faut rester en tout cas dans le temps aussi de l'enquête, dans le temps judiciaire, et donc nous on a, avec Jean-Michel Verne, vous retrouverez sur le site de Valeurs Actuelles, on a essayé de décrypter tout ce qui a mené cet homme de 78 ans à venir de Marseille, à se faire passer pour un journaliste néerlandais, enfin d'un magazine néerlandais, à passer un séjour au Auvergnat et à venir essayer de faire 5 départs de feu dans les interstices des volets de la maison des grands-parents. Alors on ignore encore un petit peu ses motivations. Est-ce que c'est parce qu'il était contre les grands-parents? En tout cas, ce serait pas la meilleure des idées de faire disparaître des preuves dans une flamme. Mais en tout cas, tout ça montre aussi un petit peu toute l'irrationalité que l'on a autour de cette enquête. Et donc, autant les journalistes doivent évidemment faire leur travail, autant on doit tous rester mesurés et et attendre les résultats vraiment de l'enquête.
Merci Nicolas Boutin, restez avec nous chers auditeurs, on va continuer à parler d'actualité. On va revenir un petit peu en France. On va revenir un petit peu à Paris, même si Paris n'est pas la France et même si et on perd à nouveau Nicolas Boutin. En tout cas voilà, vous voyez.
C'est la feria, c'est le taureau voilà, là.
C'est le fait d'avoir dire que c'est le fait d'avoir dire que Paris c'était la France, il était outré.
Ah oui.
On va parler de ça, je vais parler de ça avec vous Valentin puisque ça concerne plutôt la politique nationale, l'affaire de la BD. L'affaire de la bande dessinée de François Ruffin. Je rappelle l'affaire pour les auditeurs qui ne la connaissent pas. François Ruffin, député de la Somme, président de Picardie Debout, de Debout d'ailleurs tout court maintenant. Et candidat lui aussi à l'élection présidentielle et à une primaire, alors pas la même que Charles Rodouel, mais à une primaire tout de même pour désigner un candidat de la gauche qui serait assez fort pour s'opposer à Jean-Luc Mélenchon, hein, pour la faire courte. Et là où la plupart des hommes politiques, lorsqu'ils sont candidats, publie un livre, François Ruffin a publié une BD. Alors, le problème de cette BD, c'est que elle met en scène le principal intéressé. Donc, François Ruffin est le personnage principal de cette bande dessinée et confronté à une scène litigieuse dans un train entre une dame noire, des contrôleurs blancs et un passager présenté comme maghrébin s'offusquer de la scène. Et bien François Ruffin intervient, paye l'amende à la place de tout le monde. Bref, se met en scène tel un bon samaritain. Hurlement de la gauche, notamment de la France insoumise, qui hurle évidemment au racisme, tous les trucs en isme que peut sortir l'extrême gauche en disant que c'était le mythe du sauveur blanc, que cela concourait au racisme systémique, etc. Tempête sur François Ruffin. Est-ce que vous comprenez ça, Valentin Gore? Comment vous avez vu cette polémique et qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, je vais peut-être vous surprendre, je crois que je la comprends en partie, parce que d'abord, ce choix d'une BD, ça me fait toujours penser à cet extrait de Jacques Chirac qui avait dit à Michel Field, il venait de sortir un livre, Michel Field se moquait un peu du livre de Chirac, qui c'est vrai était un peu un livre commercial,
sous-entendu qu'il marketing, ne l'avait pas lu.
Voilà, que Chirac ne l'avait pas écrit, ce qui est vrai. et Chirac s'était moqué en disant « Oui, la prochaine fois, je vous en enverrai un avec des images à colorier. » Alors, j'aime beaucoup la bande dessinée, qui est un vrai monde, un monde d'ailleurs très intéressant, que je ne méprise pas du tout, bien au contraire. Mais je trouvais étonnant, d'abord, de la part de François Ruffin, qui veut être le candidat des classes populaires. Une bande dessinée, c'est rarement, je connais pas le prix exact, mais c'est autour de 25 euros, hein, déjà. Donc, il faut quand même vraiment avoir envie. Alors qu'un livre tout à fait banal, c'est déjà beaucoup moins cher. Donc c'est plus accessible. Et puis ce principe de se mettre en avant soi-même, de se mettre en scène, c'est vraiment d'un goût un peu douteux. La scène dont vous parlez dans le train, là aussi, je trouve que quand on fait une bonne action, surtout que là c'était quand même pas non plus, voilà, il a dû donner 5 euros à une dame qui effectivement n'avait pas payé son billet, et on n'en fait pas étalage et encore moins dans une bande dessinée, mais ça c'est peut-être un peu moral. Et puis ensuite c'est une candidature qui ne va nulle part. On le voit à la télévision récemment aux Grandes Gueules, on a l'impression qu'il veut lui-même se convaincre qu'il a le niveau,
qu'il a quelque chose à faire ici.
Alors qu'il sait bien, voilà, c'est un homme qui est très sympathique par certains aspects, qui est peut-être un bon député, je ne sais pas, en tout cas il a été réélu, mais là aussi un peu étonnant parce qu'en 2024 il est réélu au deuxième tour avec le soutien de la Macronie.
Il faut préciser qu'il est arrivé largement derrière la candidate du RN qui est arrivée en tête au premier tour avec plus de 40% des voix. Et François Ruffin s'est livré effectivement à une opération commando, mais presque digne de celle qu'a tenté de faire Christian Estrosi à Nice.
Oui, totalement.
C'est-à-dire avec un reniement partiel. C'est-à-dire que Ruffin, évidemment, a appelé au Front Républicain, il y a eu le soutien automatique du camp macroniste. Et en plus, François Ruffin, qui au premier tour était le candidat du nouveau Front Populaire, a fait une campagne de deuxième tour où avec un tract qui expliquait que François Ruffin n'était pas Jean-Luc Mélenchon.
Voilà.
Enfin, il y a eu cette dimension-là.
Alors que pendant un temps, il était presque par certains aspects, non pas à la gauche de Jean-Luc Mélenchon, mais quand même très très militant. Hein,
en tout cas, de ses héritiers présomptifs.
Ses films, d'ailleurs, Merci Patron, qui est un film d'ailleurs assez drôle, si on le regarde, c'est assez marrant, même s'il y a une lecture politique derrière qui est tout à fait contestable. Mais c'est un personnage étonnant, parce que être un anticapitaliste qui tutoie le système, comme il le fait en se faisant réélire avec l'aide du système et en bénéficiant, comme d'un certain côté, Monsieur Roussel, de la bénédiction plus ou moins tacite de toute la Macronie, qui dit « Ah oui, lui, c'est la vraie gauche, c'est une gauche fréquentable. »
Celle qui aime bien la Côte de celle qui est raisonnable, en fait.
Voilà, on peut s'entendre avec lui. Donc moi, je trouve que vraiment, c'est un personnage, je trouve qu'il devrait retirer cette candidature à l'élection présidentielle, c'est le seul conseil que j'aurais à lui donner, parce que vraiment, cette bande dessinée, il faut quand même être fou, déjà, je trouve, pour demander à quelqu'un, il a fait le scénario, pour demander monter ce projet, là aussi, on pense à Laurent Dandrieu tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans la pièce qui a levé le doigt en disant « Non, non, c'est pas une bonne idée, ne le fais pas.
» C'est le drame de ces personnalités, je laisse la parole à Nicolas Boutin après qui nous a rejoint, mais c'est un peu le drame de ces personnalités, pour moi c'est un peu le point commun qu'il peut y avoir entre Raphaël Glucksmann et François Ruffin, c'est que ce sont des personnalités atypiques. François Ruffin et Glucksmann laissent toujours transparent qu'ils ont l'air totalement égarés en politique et que c'est pas forcément le cœur de leur métier. D'ailleurs, quand on voit Glucksmann se présenter comme consultant en révolution,
ça se voit beaucoup, oui.
On s'est dit, il y a un côté, c'est amusant parce que Jordan Bardella fait tout pour se vieillir et Raphaël Glucksmann, qui a 45 ans, je pense, qui aurait l'âge pour être président, fait tout pour continuer de passer pour un espèce d'adolescent un peu attardé. C'est assez paradoxal, je trouve, et c'est un peu leur point commun à tous les deux, c'est que il y a des idées. François Ruffin a eu des victoires concrètes, je pense notamment au statut des femmes de ménage, à tout ce qu'il a pu faire dans sa circonscription, les mobilisations sociales qu'il a pu remporter, etc. Donc on peut dire que ceux qui ont voté pour lui ont trouvé leur compte, mais là où effectivement il y a un souci, c'est que ce sont des gens qui sont profondément seuls. C'est des gens qui en fait qui sont très peu voire très mal entourés, qui ont un côté pour le coup François Ruffin qui a un côté vraiment moine soldat qui fait qu'il donne tout à la cause et qui ne comprend pas pourquoi ses équipes autour ne font pas comme lui. Enfin, il y a un petit peu tout ce drame finalement des grands solitaires en politique. Je pense qu'à droite, Nicolas Dupont-Aignan peut faire aussi un peu partie de cette catégorie. Nicolas Boutin sur la BD de François Ruffin, puisqu'on vous a retrouvé.
C'est vrai que François Ruffin, en fait, avait commencé son mandat avec quelques prises de position qui pouvaient plaire, je pense, à une certaine partie de l'électorat populaire, si je peux me permettre cette expression.
C'est pas un gros.
Et que, en fait, à force de posture, ça sonne faux. Et malheureusement, c'était assez intéressant ce que vous disiez chacun d'entre vous, parce que effectivement, il paraît à côté de la plaque et il pense que ça va être séduisant quand il y a une population qui est avec un certain niveau de défiance envers les politiques. Finalement, ça s'est marqué contre son camp à chaque occasion. Évidemment que je plus sois sur le fait que quand on rend un service, si la première des choses que l'on fait derrière, c'est d'en faire un selfie, évidemment retourner finalement le côté vertueux de l'action.
C'est un truc d'influenceur, quoi, un petit peu.
Exactement, et puis surtout, c'est intéressant aussi ce que disait Valentin, j'ai envie de compléter, même d'aller plus loin que lui, parce qu'il disait que ce genre de profit pouvait parfois plaire dans la Macronie, mais attention, parce que ça peut aussi plaire à droite. Et en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus, en tout cas, notamment en 2022, c'était assez intéressant, à partir du moment où Fabien Roussel a commencé à parler de l'identité française comme étant juste une pièce de boucher et du vin rouge, eh bien, on s'est dit, ouais, il n'est pas wokiste, et donc il est quasiment de chez nous, on pourrait quasiment faire des alliances après, avec lui. C'est quand même bien réduire notre identité pluriséculaire que de ramener l'identité française simplement à la pièce de boucher.
Non mais Nicolas Boutin dit ça parce qu'il a défendu la Côte de Bœuf et pas le cassoulet toulousain, sinon Nicolas aurait dit cet homme est formidable, je vais voter pour lui. Arrêtez Nicolas, on vous connaît.
le secret de l'isoloir. Mais en tout cas, non, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que François Ruffin aussi, juste ce côté-là finalement, bah, il est moins wokiste que peut-être que Sandrine Rousseau, peut-être que Jean-Luc Mélenchon, il est peut-être moins extravagant ou en tout cas délirant que Rima Hassan, que Raphaël Arnaud. Et donc bah, finalement, c'est aussi peut-être une stratégie de la gauche, consciente ou inconsciente. On voit que la fenêtre d'Overton s'est décalée, que ce qui était à l'époque inacceptable, en tout cas pour quelqu'un de pour un électeur de droite, devient acceptable parce qu'il y a des plus radicaux qui prennent la place. Mmh. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des électeurs de droite qui pourraient voter François Mitterrand demain si on retournait en 1980.
Mmh. Alors c'est toujours un petit peu la question justement de ces candidatures de gauche. Vous avez parlé de Fabien Roussel. De François Ruffin, il y a de toute façon pour cette gauche-là, après on va passer à autre chose, mais il y a de cette gauche-là, c'est exister face à Jean-Luc Mélenchon, et il est vrai que le seul créneau qu'il reste à ces gens, c'est d'aller essayer de récupérer l'électorat rural, périphérique, qui est parti au Rassemblement National, mais en fait...
Ça me fait penser à Bruno débat... Retailleau, en fait, et aux Républicains, ou à Xavier Bertrand... qui essaie de partir à la reconquête.
Ah bah, si vous savez où ils vont, dites-leur, parce qu'ils savent pas, eux. Hein.
C'est comment
vraiment, si vous savez où ils vont électoralement, vraiment, dites-leur, parce qu'eux-mêmes ne le savent pas, là.
Bon, je vais prendre un café avec eux.
Et puis vous sécuriserez le Proche-Orient au passage, et puis... Non, dernière question, messieurs, justement, puisqu'on en parlait vaguement. Édouard Philippe, mise en examen, Édouard Philippe, visé par une enquête.
Oui,
on va rester juridiquement acceptable. Édouard Philippe, visé par une enquête pour détournement de fonds publics. Un an de l'élection présidentielle, est-ce qu'il faut y voir quelque chose d'assez politique, Valentin Gore, ou simplement une vieille affaire qui suit son cours dans un calendrier tout à fait normal et non rebutant?
Alors, je dois dire que je pense que c'est plutôt la deuxième option, parce que c'est une affaire dont on avait déjà entendu parler, qui est assez technique, qui concerne la création au Havre d'une antenne LH French Tech. Alors là, je pense que les auditeurs là vont bouillir là chez eux.
Nous sommes désolés.
Mais c'est le nom, voilà, donc qui est une instance numérique nationale où l'une de ses adjointes a été nommée Madame Stéphanie de Basler, qui était adjointe à la métropole du Havre, avec un salaire qui interroge, qui n'est pas dans les standards habituels. Donc nous allons suivre cette affaire. Après, c'est vrai que des affaires comme ça, il y en a dans beaucoup de communes aussi, donc il faut être attentif. C'est pas l'affaire du siècle, à mon avis.
Merci Valentin Gore, merci Nicolas Boutin d'avoir été avec nous, et merci à Stéphane à la technique, et Louise qui s'est occupée de nous apporter le courrier des auditeurs. Merci à vous aussi, chers auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Restons Courtois, présenté par Valeurs Actuelles. Retrouvez le Restons Courtois de Boulevard Voltaire avec Marc Baudrier dès demain à 17h30 sur Radio Courtoisie.
Ça suffit maintenant.